Bon, merci encore à tous pour cette invitation. J'espère que je pourrai remplir ma tâche comme il faut. Et en fait, je voudrais tout simplement vous proposer quelques considérations sur la manière dont on pourrait essayer de penser les droits du commun en valorisant des aspects qui appartiennent à l'histoire du droit. Du droit, évidemment, du droit occidental. Hein. Je vous proposerai deux mouvements, si on peut le dire comme ça. Le premier concerne le choix du terrain et des procédures historiques propices à la justification d'un droit du commun. Et le second mouvement cherchera de développer les résultats de ce premier mouvement. Donc, de quelle histoire juridique doit-il se doter le commun ? Je suis assez sensible à l'invitation qui me faisait Tony de m'arrêter sur les usages du droit. Peut-être parce que par l'usage, ce serait une manière aussi de prendre les choses par le milieu, pour employer une expression chère au portrait que brossé par Deleuze, au portrait de Foucault brossé par Deleuze. Donc prendre les choses par le milieu, c'est un peu là. C'est qui la manière de donner un territoire aux usages. Et ça aiderait aussi à contourner les oppositions binaires droit privé, droit public, dont parlait Hugo tout à l'heure, gouvernant, gouverné, propriétaire, titulaire, multitude sans qualification. Je crois que avant de prendre une position sur le fond des usages possibles et ou concrètement opératoires du droit du commun, quelque chose que Hugo peut faire beaucoup mieux que moi, on pourrait s'interroger sur un usage primaire, voire primordial, qui est l'usage de l'histoire du droit. Alors, difficilement, me semble-t-il, un discours sur le rapport entre le droit et le commun pourrait renoncer à la définition préalable de la base historique, en tant que condition d'immanence dans laquelle il s'agit d'inscrire un propos théorique, une revendication politique, ou plus simplement, un diagnostic du présent. On part toujours de la quête des bons pères qui assurent les matrices théoriques appropriées aux propos qu'on veut soutenir. Cela vaut pour la légitimation historico-philosophique du commun, comme pour son inscription dans des modèles relevant de l'histoire du droit. Et c'est de ce côté-là que je voudrais développer mon discours. Donc, je crois que le premier pas est le suivant. Le discours juridique du commun doit s'assurer de la disponibilité de son propre archive, qui, comme le rappelle Foucault dans l'archéologie du savoir, fonctionne moins comme un contenant de documents que comme un système général de la formation et de la transformation des énoncés. Donc, s'ouvrir l'accès à son propre archive signifie d'emblée nier les postulats herméneutiques selon lesquels chaque prise de parole serait déjà située dans un horizon de sens, l'orientant à la fois vers l'analyse et éventuellement la transformation du monde. Au contraire, il s'agit de rappeler que le premier usage, l'usage de tous les usages, se réalise dans l'attribution constitutive au commun de sa propre histoire juridique. Car cette opération représente à elle seule l'enjeu d'une bataille pratico-discursive fondamentale. Alors, les récits de l'histoire du droit relèvent moins de la connaissance du passé que d'une stratégie politique en fonction du présent. De sorte que le fait de dire l'histoire correspond ipso facto au fait de dire l'histoire correspond ipso facto une position antagoniste dans l'actualité. Donc l'écart métaphysique entre représentation et action disparaît, ainsi que l'obstacle à la possibilité que l'histoire devienne contemporaine à soi-même. Je crois qu'il faut le dire sans rougir et sans la crainte de plaire aux défenseurs de l'empirie pure et dure. Dès tout ceci dit, on ne part pas dans le neutre, l'usage public de l'histoire recoupe la constitution politique de son propre archive. Et grâce à une telle opération pratico-théorique, qui consiste à dire la vérité du passé et occuper ainsi une position stratégique décisive, le commun peut se doter de son chiffre d'immanence juridique. Comme l'a montré Foucault clairement dans l'analyse de l'historicisme politique, l'histoire, on ne la subit pas, mais on la construit comme une arme de lutte. C'est la conquête pour l'ontologie, et comme telle, elle devance toute autre conquête du commun. Cette prémisse, j'essaierai d'aborder un peu plus de près la question qui est plutôt celle qui devrait me solliciter, à savoir définir un peu une histoire juridique du commun par quelle approche. Il serait presque banal de reconnaître que le commun possède de toute évidence sa propre collocation dans la chronologie du droit occidental, comme le montre la cristallisation du syntagme « droit commun », « jus commune » depuis le Moyen-Âge. Et que le commun du XXe siècle, pourrait trouver des points d'ancrage assez séduisants dans l'image, loin d'être immune de la distorsion idéologique du « jus inventum » médiéval toujours, à savoir d'un droit qui se crée d'une manière horizontale dans l'espace laissé vide par l'absence de l'État et d'un droit positif. Or, indépendamment du fait qu'un droit public s'est donné aussi avant la constitution de l'État, le repêchage du jus commune comme précédent analogique de la globalisation souffre de la même illusion trompeuse selon laquelle les juristes artisans de la Renaissance du droit romain au XIIe siècle auraient envisagé aussi, par cette redécouverte, la Renaissance de l'Empire. Les historiens du droit médiéval ont depuis longtemps démoli la fausse symétrie entre la récupération des techniques juridiques romaines à partir du IIe siècle et l'idée consubstantielle de renaissance de la forme politique impériale. Ces constats nous permettent plus en général de rappeler que les techniques juridiques, excusez-moi si je fais un peu ce détour sur les techniques juridiques, mais j'ai besoin quand même de justifier ma vision du droit. Eh bien, les techniques juridiques ne reflètent pas un point de vue idéologique prédéterminé. Elles sont vides de sens en elles-mêmes et donc disponibles à des emplois multiples, qui sont irréductibles aux exigences d'une classe ou d'une assise particulière des rapports de production matérielle. Je crois que nous avons tout l'intérêt à dépasser l'approche d'un marxisme juridique dogmatique et restituer au montage du droit leur autonomie praxéologique. Le matérialisme de la première thèse sur Feuerbach n'exclut pas le droit comme mode de faire propre au travail des juristes et des acteurs s'emparant des techniques ainsi produites. Cette pratique tient précisément à la sphère de la praxis, qui ne se laisse pas réduire au simple stade d'objet de la réflexion, parce que sa vocation reste toujours celle d'une activité sensible humaine, dotée pour cette raison d'une véritable fonction subjective. Et en tant que praxis qui est d'emblée pensée en elle-même et non pas comme moment réfléchi de l'idée, les opérations du droit remplissent à plein titre les conditions d'une approche matérialiste de la réalité. En définitive, je crois que les instruments du droit ne sont que des armes maniables dans des directions différentes, sans un telos intrinsèque qui les oriente vers un objectif exclusif. C'est leur force technique qui en favorise un usage potentiellement apatride et délié de l'appartenance à un système de production bien précis. Donc, les techniques du droit constituent à la fois des produits et des ressources de savoir-faire dont les sujets les plus distants, spatialement et idéologiquement, pourrait se servir pour réaliser les objectifs les plus disparates. Ce qui par ailleurs n'exclut pas les problèmes de leur contextualisation avec les résistances matérielles, sociales et culturelles que tout milieu peut opposer à l'hégémonie des moyennes et l'autosuffisance de la rationalité instrumentale. Mais ces moyennes, il ne faut pas les considérer comme un détour qui mystifie les énergies spontanées du réel et de ses besoins. Le droit est bien plus qu'une altération idéologique des faits, comme le dit Pachoukanis, car ces techniques structurent les plans d'immanence sur lesquels s'organise la praxis en tant que réaction innovatrice, fictio legis. Les plans d'immanence relèvent ainsi d'une seconde nature à laquelle participent aussi les techniques du droit. Et ces techniques peuvent faire l'objet d'un travail de réappropriation et de transformation dans les dynamiques historiques, et échappent de ce fait à l'identification avec la physionomie précise d'un pouvoir sociopolitique centré autour du sujet propriétaire. Si les conseils juridiques peuvent traduire, comme le disait Pachoukanis, qui est rappelé par Negrehart, la logique d'une société qui produit des marchandises, il ne faut pas pourtant oublier que le droit, dès qu'il formalise et décrit les objets dans les langages de l'abstraction, opère avant tout comme pratique qui constitue ces objets dans le réel. Autrement dit, l'abstraction juridique est un attribut essentiel de l'immanence si celle-ci désigne non pas un état, mais les opérations par lesquelles les sociétés neutralisent les conditionnements de la nature. Donc, à la lumière de ces prémices, je voudrais aborder la détermination de l'histoire juridique du commun à partir d'un enjeu qui, depuis les années 1990, a alimenté une stratégie bien précise, l'usage du droit romain dans le contexte de la globalisation du droit. Je ne dis pas que c'est la seule option historique possible. Je me limite à prendre acte qu'il s'agit de l'offensive, d'une des offensives majeures qui s'imposait afin de faire fonctionner le passé dans la condition présente du droit. Donc voilà les premiers niveaux de l'usage du droit dans les communs à l'heure actuelle. Quel type de rapport faut-il instaurer avec le patrimoine de rationalité pratique véhiculé par l'héritage du corpus juris de Justinien? Sous quelle forme peut-on envisager la réappropriation de ces techniques dans une généalogie juridique du commun? Autrement dit, comment s'est constituée les conditions historiques pour articuler un discours sur le commun si la base réelle, à savoir la grammaire pratico-discursive des acteurs, savants et profanes, se définit à partir du droit romain? Pour aller vite, et en sachant qu'on néglige des pas entiers de l'historiographie juridique, je crois que deux attitudes fondamentalement opposées peuvent se confronter dans cet usage du droit romain. Et se réclamer de l'une ou de l'autre n'est pas indifférent quant à la possibilité de penser les droits et les communs à l'heure actuelle. La première attitude est massive et s'en remet à la tradition la plus impérialiste de la science juridique privatiste du XIXe siècle, le pandétisme. La seconde approche au droit romain est décidément rare, voire unique, et pourtant ses résultats sont bien plus intéressants pour les sorts juridiques du commun qui nous intéressent ici. Voyons la première approche, l'approche la plus impérialiste, celle qu'aujourd'hui on appelle le jus commune européen. Dans les sillons du grand projet esquissé par Savigny au XIXe siècle, nous trouvons la réactivation de l'entreprise pandectiste d'un usus modernus pandectarum, entreprise aujourd'hui adaptée au contexte de la globalisation, selon une ligne de continuité atemporelle assurée par la réduction du droit romain en série de dogmes. La thèse à la base de cette vision est désormais galvaudée. La rationalisation formelle des institutions juridiques romaines a atteint un niveau d'abstraction tel qu'il suffit de la transposer, grâce à la haute médiation des juristes, dans les contextes de nos différents systèmes juridiques pour trouver les moyens adéquats à la solution de toute controverse légale. Ainsi, la continuité sous-jacente entre une expérience du passé et l'effort du présent s'appuierait sur la durée tenace des principes anciens, mais remaquillée par l'imagination inépuisable des savants du droit. Comme on peut le lire à titre d'exemple chez Reinhard Zimmermann, le représentant le plus connu de cette orientation véritablement historicide, je le cite, « Les contrats fondés sur rien d'autre que les consentements formels ont, de norme, une force contraignante. C'est un principe aujourd'hui reconnu pour tous les systèmes européens occidentaux. Comme dans bien d'autres cas, il s'agit d'un principe latent du droit européen des contrats. C'est du droit romain revêtu par des parures modernes. » Voilà, le résultat serait aussi celui d'une récomposition de l'idée unitaire d'un droit commun européen par-dessus les spécificités des systèmes juridiques nationaux. Il n'est pas question ici de s'arrêter sur les implications idéologiques et les faiblesses empiriques d'une telle position, qui s'y représente les communs comme un processus entièrement maîtrisé par les savants du droit, professeurs de recht, mais aussi les law firms multinationales, bien sûr, qui sont les seuls capables de manier les techniques sophistiquées du droit privé que les Romains nous ont léguées. C'est le droit commun des élites, qui s'intéresse seulement à dégager des principes purs, détachés de la vie sociale, politique et économique, dont le droit se nourrit. Une histoire interne de type conceptuel et transhistorique anime cette entreprise culturelle, mais qui est avant tout une opération de pouvoir. Lorsque, par exemple, ce Reinhard Zimmermann dont je parlais tout à l'heure, veut rassembler les deux traditions de civil law et common law sous l'égide du digeste, source capable d'irriguer les sociétés du XXIe siècle. Et c'est le même type de synthèse qui s'est produit dans la réactivation de l'ancienne lex mercatoria, comme le savent bien les experts du droit commercial. Il s'agirait ainsi donc d'un droit commun qui s'est construit autour de valeurs partagées et méthodes juridiques généralement reconnues, tout comme autour des principes communs et maximes guides, donc un droit commun formé par les juges, les législateurs et les professeurs agissant en coopération les uns avec les autres. C'est ça le credo de Zimmermann et de tout ce qui suit cette tendance de jus commune européen. Or, les critiques adressées à ce modèle lui contestent sa manière de sélectionner dans les sources juridiques anciennes seulement les éléments utiles à notre présent ou futur. Je ne suis pas un expert du droit romain, mais je me rends compte quand même de la force créatrice propre à tout usage public de l'histoire. Et ce n'est pas cet aspect sélectif des sources du passé qui peut nous scandaliser. Ce sont plutôt les objectifs d'une opération de pouvoir mise en place à l'aide des concepts fonctionnels à la vocation universaliste de la science juridique. Ces dessins dans sa prétention de rétablir une hégémonie intellectuelle des juristes notables, rassemble un vœu pieux dépassé par les dynamiques du présent. Cependant, ce dessin est parfaitement solidaire avec la globalisation des marchés qui attribue au contrat les primats régulateurs des rapports intersubjectifs. La loi attend de plus en plus un instrument obsolète et s'emprise sous l'effectivité des procès socio-économiques. Ça, c'est la tendance dominante. Il y a quand même une autre tendance qui est peut-être représentée par elle-même et qui, pour cette raison, peut solliciter davantage notre curiosité. Parce que c'est vers un tout autre type de droit romain vivant qu'il faut tourner les regards si nous voulons pourvoir au comment l'histoire juridique qui lui convient. Comme on le sait, le droit romain est censé avoir trôné la souveraineté de l'individu commerçant et son emprise sur le monde. La propriété privée serait le signe d'une faculté subjective originelle sur les choses, s'exprimant dans les modes de l'appropriation et de l'échange, alors que toute autre forme de propriété n'est qu'une dérivation de cette faculté première. Or, dans un article qui a totalement bouleversé cette représentation inoxydable, un article qui est paru dans les annales numéro 6-2002, Jan Thomas a opéré une véritable révolution copernicienne dont, me semble-t-il, un discours juridique sur le commun pourrait tirer énormément parti. Alors, dans cette étude, la preuve documentaire a été fournie d'un droit privé qui, loin d'adhérer à la nature de l'homme, ne serait que le négatif d'un geste institutionnel prioritaire bien précis. La mise en réserve par les pouvoirs publics et sacrés de choses considérées inappropriables, qui relèvent d'un patrimoine n'appartenant à personne, ce qu'on dit « res nullius symbolis », et qui, comme telles, sont soustraites à la sphère du commerce. Il s'agit des biens affectés au dieu ou à la cité, dont l'exclusion du régime patrimonial de l'échange représente la condition pour penser, par contraste, l'espace libre de l'activité marchande. Donc, dans cette dialectique des choses qui sont appropriables ou inappropriables, non pas en vertu de leur nature objective, mais en raison d'une décision institutionnelle, Jan Thomas dévoile bien plus que les caractères dérivés de la disponibilité individuelle présumée originaire. Et il ne se contente pas de cette inversion logique et pratique dans les processus qui génèrent les droits privés. Il ne les limite non plus à la démonstration que la valeur des choses marchandes était inconcevable sans la référence constante au monde des choses inestimables, à savoir soustraite à la mesure de la valeur commerciale. Il repère, dans les droits romains, tous les outillages techniques par lesquels une troisième zone de qualification émerge, qui est réductible à la dimension étatique et privée. C'est une zone où il n'est pas question d'appartenance d'un droit, à la cité ou à l'individu, mais de son usage. Donc le problème transcendantal de la titularité subjective est ici déplacé par la force de l'affectation des choses. Donc l'espace public serait ainsi composé par une aire de domanialité laissée à la libre disposition de l'État, qui peut vendre ou distribuer des terres, et par un ensemble de choses publiques qui sont protégées non pas comme objets des propriétés publiques, mais comme zones d'usage public. Dans cette deuxième catégorie figurent les biens absolument indisponibles comme les places, marchés, théâtres, routes, rivières, conduites d'eau, etc. Autrement dit, une fois isolée, cette zone d'indisponibilité absolue ne frappe pas seulement les particuliers, mais aussi la cité. Donc l'interdit ne consacre pas la victoire de l'État sur l'individu, mais la souveraineté de la praxis libérée par la combinaison entre une affectation institutionnelle et l'usage de plusieurs, à savoir la multitude de citoyens. S'ouvre ici un espace que, par une actualisation qui me semble licite, on peut qualifier de commun, en ce qu'il délimite les périmètres de l'action ainsi que l'action même. Parce que cette dernière se peut réaliser et dans la jouissance directe des biens et dans une procédure en justice pour en protéger l'affectation. À la lumière de cette révision radicale accomplie par Jan Thomas, qui bouleverse toute la représentation qu'on a du droit romain et du primat qu'il attribue à la maîtrise primordiale du sujet propriétaire, on peut peut-être nuancer les propos, je ne suis pas opposé à Ugo Mattei, on peut peut-être nuancer les propos d'Ugo Mattei lorsqu'il affirme dans le texte qu'il vient de lire que le droit occidental a joué un rôle très important dans la destruction du commun. Une lutte pour l'histoire avec les armes de l'histoire du droit romain peut en réalité offrir des arguments à l'impact non négligeable. Même si l'alliance entre néopandétisme et globalisation juridique n'est pas malheureusement incline à valoriser des diagnostics aussi iconoclastes que celui qui nous a proposé Yann Thomas. Donc, pour conclure, je passerai au deuxième mouvement. Et je me suis rendu compte, en écrivant ces notes, que je développais des arguments qui entrent en résonance avec une bonne partie des questions soulevées par Toni Negri lors de son intervention au séminaire de Turin du mois de mars dernier. Je pense en particulier à ses préconisations d'un droit du commun qui, face à la crise économique globale, s'appuie sur la revendication légitime d'une rente sociale. Faire reconnaître ce droit du commun à la rente sociale, un droit qui ne soit ni privé ni public, c'est la voie, conclut Toni, à la fois unique et juste pour sortir de la crise. La perspective étant ainsi définie, voyons dans quels termes elle pourrait être pratiquée. Comme tout droit, un tel droit à la rente sociale pourrait être revendiqué et protégé selon des voies différentes. Une première façon de la décliner serait de garantir sa reconnaissance en justice, selon la modalité classique qui suppose le concours d'un tiers public, national ou international, qui serait indisponible aux acteurs. Une deuxième possibilité s'organiserait autour de l'arbitrage. En droit commercial, on sait bien quelle est l'importance des chambres d'arbitrage international, avec la présence d'un tiers choisi par les parties. Je dis au passage que toutes les pratiques de la médiation, dont l'importance a été exaltée à partir des années 1990 dans les oppositions binaires droit négocié, droit imposé, bien toutes ces pratiques-là rentraient dans cette forme souple de définition de l'agenda gouvernemental et des résolutions des conflits qui peuvent en dériver. Il y aurait une troisième hypothèse qui consisterait à contourner les passages pour une institution tierce, au cours des institutions tierces, judiciaires ou bureaucratiques, nationales ou internationales, pour restituer à la lutte politico-sociale la capacité de fonder et de protéger ses droits à la rente sociale. Même si cette lutte devra probablement se traduire en prétentions justiciables, je crois qu'avant même d'entrer dans cette forme de procédure, un espace pour la praxis s'ouvre qui n'est pas soumis aux catégories judiciaires. Il s'agit d'une contre-gouvernance qui passe par la réqualification du concept d'administration arraché à la bureaucratie, au sens où celle-ci, comme le rappelle Hugo Mattei dans son intervention, concentre le pouvoir au sommet de la pyramide souveraine, mais on pourrait ajouter aussi les management des corporations. Donc je crois que le concept d'administration devrait être arraché à sa double identification qui a été faite à la fin du XIXe siècle, notamment par Ouliou, au concept de puissance et de service. L'administration, purifiée de cette déclination telle qu'on l'a connue à la fin du XIXe siècle, c'est un concept tout à repenser. Donc, reprenons ces concepts là où l'avaient laissé Saint-Simon et Marx. L'administration libre des choses remplacera les pouvoirs de l'homme sur l'homme, essayant de les revaloriser à l'aide d'une double qualification. D'un point de vue négatif, il s'agit de les soustraire à deux représentations. D'un côté, il faut les détacher des principes weberiens de la rationalité instrumentale, fondés sur la calculabilité, la prévisibilité et plus généralement sur la mesure temporelle du travail et les rapports étroits entre moyens et fins. De l'autre, il faudrait purifier les conseils d'administration de toute forme de réification économiste, comme s'ils désignaient uniquement l'auto-organisation de la production et de l'échange par la société même. Si l'on veut bien concevoir ainsi l'administration comme une forme d'action délestée de la bureaucratie, ainsi que de sa téléologie technologico-productive, on peut alors admettre qu'elle se reconfigure comme une praxis qui se laisse lire moins en termes de revendication que d'usage. L'usage administratif commun dépasse la subjectivité abstraite de la titularité sur les choses. Car, comme l'a montré Yann Thomas à propos des choses qui n'appartiennent à aucun patrimoine, ni privé ni public, sa raison d'être relève de l'indisponible. Si le droit du commun désigne un tertium genus basé sur l'égalité dans la coproduction des normes juridiques non étatiques, comme disait Toni à Turin, ce droit trouvera sa légitimation dans l'indisponible et son statut opératoire dans l'usage administratif. Quand on parle d'indisponible, il ne faut pas penser en pénurie ontologique, en état d'indigence quelconque ou pire, au renoncement à l'action. Loin d'être la figure du négatif qui condamne la volonté à la modération, l'indisponible est plutôt le fruit des procédures institutionnelles qui libèrent, au lieu d'inhiber, les potentialités collectives des sujets. Et si l'on ne veut pas que ces potentialités tournent à l'appropriation prédatrice, il n'y a que le mode administratif qui pourrait attribuer au commun sa forme de pratique. Le droit romain a fondé sa métaphysique individualiste précisément sur l'indisponible comme préalable de l'appropriation. C'est bien Thomas qui nous a montré. Il ne faudrait pas pourtant oublier qu'un autre chapitre de cette histoire de la catégorie pratique d'indisponible, tout aussi décisif, a été écrit par la théologie chrétienne. Mais cette fois, rassurez-vous, il ne s'agit pas de la théologie politique. Pas de droit d'exception, pas de cristal obscien dont la face s'ouvre vers la transcendance. En fait, me semble-t-il, c'est plutôt la raison d'être de l'homme dans ce monde qui justifie sa vocation totale d'administrateur et qui disqualifie la maîtrise comme faculté naturelle sur les choses. Si la pauvreté est l'antagoniste social du dominium, il ne faut pas oublier que la pensée théologique, dès ses origines, a éprouvé la nécessité de construire une anthropologie qui prend une forme administrative, car à chacun fut confiée la mission de garder les dépôts, comme disait la première épître à Timothée, c'est-à-dire de veiller au patrimoine commun des fois et d'en rendre compte à tout moment. L'ontologie, certes, dans ses discours, rejoignent l'eschatologie sous l'égide d'un mode de faire administratif qui déclenche la créativité des sujets par l'exclusion du mode de faire propriétaire. De même que son homologue dans le droit civil, le dépositaire n'a pas la disponibilité absolue sur les choses qui lui sont confiées. La subjectivité de l'homme se définit à part entière par cette vocation administrative qui se nourrit d'opérations potentiellement indéfinies, à l'exception des actes de disponibilité propriétaire. Donc, à partir de cette exclusion fondatrice, l'histoire, notamment de l'Église, peut aussi bien se concevoir comme une série de luttes pour sauvegarder l'indivisibilité collective de ce dépôt commun dont nul n'est censé avoir la maîtrise. Et toute l'histoire de ce dépôt peut aussi se lire comme la lutte entre deux façons d'assurer son administration, soit selon une tendance conservative, hiérarchique et bureaucratique, soit selon une vision propulsive et radicale qui vise l'usage coopératif du dépôt. Dans les deux cas, nous avons toujours affaire à un théologico-administratif qui ne se laisse pas entraver par les problèmes de la décision sur les cas d'exception, selon l'exigence propre théologico-politique. Le jugement, en tant que faculté structurelle du droit, ne fonde pas les rapports entre l'homme et le monde, le fameux « ne jugez pas » de l'Évangile, l'anéantissement eschatologique de ce monde décrété par la fiction paulinienne du « comme s'il n'est pas » est en réalité racheté par la loi d'un dépôt qui tient son immanence historique au fait préalable d'être indisponible. On pourrait bien sûr citer toute une série d'exemples institutionnels qui attestent la diversité des manières dont s'est historicisée l'administration de cet indisponible, à la fois spirituel et réel, que le dépôt. Je me limiterai à évoquer la question franciscaine, d'ailleurs évoquée aussi par Tony Hart, de l'usus pauper, des choses du monde, qui est à la fois un indice de la valeur sociale du chrétien et une manière de libérer les ressources pour les destiner au bien-être de la communauté. Ou, pour ne donner qu'un autre exemple, on pourrait rappeler le grand exercice d'imagination casuistique dont a fait preuve les juristes du IIe siècle lorsqu'ils ont attribué la propriété des biens aux lieux plutôt qu'aux personnes. C'était une théorie curieuse, une théorie soutenue par un archevêque qui s'appelait Moïse de Ravenne au IIe siècle lorsqu'il fallait justifier la titularité des biens d'un monastère une fois que tous ses membres étaient disparus. Il disait que ces biens appartenaient aux murs du monastère. Eh bien, cette théorie-là a fait une reprise intéressante par la Cour de cassation italienne en 1953, parce que pour justifier la continuité des droits à l'exploitation des terrains restés longtemps dépeuplés, la Cour établit que les murs des maisons de village étaient restés les propriétaires de ces terrains communs qui avaient assuré la subsistance des habitants. Nous assistons ainsi à un phénomène quelque peu curieux sur le plan anthropologique, celui d'une dépersonnalisation de l'appartenance. Alors que c'est la matière qui appartient à la matière, et l'administration n'est que la marque humaine qui valide ce continuum. Et ce n'est pas par hasard que ce seront les civilistes du IIe siècle, ainsi que les décrétalistes, donc les experts de droit canon du XIIIe, qui rejetteront cette anomalie naturaliste pour restaurer la souveraineté de la personne, en l'occurrence juridique. Bref, les droits ne peuvent exister sans titulaire personnifié, selon les juristes civilistes et les canonistes, qu'ils soient de chair d'eau ou fictivement construits. Je conclue. Les avatars d'un droit du commun nous indiquent ainsi que l'usage administratif de ce droit peut représenter un laboratoire de réflexion et de pratiques partagées. Si la gouvernance prétend liquider toute hypothèse de résistance externe à la globalisation, l'administration est la forme affluence d'une praxis qui se refuse à ses desseins hégémoniques. On revient par là au problème de l'institution, qui n'est pas la devise d'un pouvoir légal et usurpateur de la vie des hommes, mais la manière entièrement processuelle de déontologiser les conditionnements qu'on pose à la liberté. Merci.